Mesdames, Messieurs, chers collègues, Marc Fumaroli et moi-même, nous avons le privilège et l'honneur d'accueillir ce soir au Collège de France Madame Benedetta Papassoli, qui va nous proposer pendant ce mois quatre cours concernant l'œuvre de Fénelon. Madame Benedetta Papassoli est l'un des éminents spécialistes du XVIIe siècle français et l'élève de Giovanni Macchia, c'est-à-dire l'un des grands maîtres italiens de littérature française, et elle a travaillé longuement sur les arts de l'esprit, et notamment au XVIIe siècle, français et italien. Je vais rappeler rapidement quelques-uns de ses livres, en partie en italien, en partie en français. Elle a commencé avec un livre dont le titre est « Gli spirituali italiani et le grand siècle » en 83, et puis « La lettre et l'esprit, thème et figure du XVIIe siècle français » 86, « Dimore dell'assenza et dell'attesa » 88, c'est l'un des livres que j'aime le plus, et puis elle a aussi fait des traductions et des commentaires très importants. Je rappelle notamment la vie de Rancet de Chateaubriand en italien, le commentaire des cantiques spirituels de Jean-Joseph Surin et plus récemment les pensées de Pascal avec une très belle introduction. Et encore en 2000, Volti della memoria au grand siècle, le fond du cœur, figure de l'espace antérieur au XVIIe siècle dans la collection dirigé par Philippe Sellier, et puis plus récemment, La mémoire du cœur au XVIIe siècle, Champion 2008, et une immense répertoire d'articles, je dirais d'interventions, de méditations aussi, j'en cite quelques-uns, entre méditation et contemplation, la voie dans l'écriture spirituelle au XVIIe siècle, pour et contre la lecture, paradoxe du Télémaque, et encore l'imaginaire de la Cèse chez Fénelon, trois essais sur Racine, etc. Je pourrais continuer longuement, mais j'ai pris déjà trop de temps et je voudrais lui laisser la parole. Mais en rappelant son titre, en effet, qui est un peu constant, Le fond du cœur, je me trouve un peu dans la situation paradoxale de savoir que tout le reste est vanitas, mais néanmoins, nous sommes obligés, dans nos traditions, de faire un geste qui va être, d'un côté, rappeler qu'au centre, il y a le fond du cœur, mais qu'autour, il y a la couronne de la vanitas, et dans la couronne de la vanitas, ton nom est inscrit, et donc c'est la médaille du collège qui va t'accompagner pendant ces cours.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Donc je vais t'écouter.
Un grand merci. Donc il faut que je commence vraiment par remercier Carlo Ossola et aussi M. Marc Fumaroli qui sont les responsables de ma venue au Collège de France. Donc, et bien sûr, je remercie aussi tous ceux qui se sont déplacés pour venir écouter cette leçon, cette conférence qui aura pour titre « Le sourire de Mentor ». Nous sommes entrés dans l'année fénelonienne, dans le tricentenaire de la mort de Fénelon. Et il y a encore des raisons pour s'attacher, encore une fois, au Télémaque. D'un côté, c'est un peu la magie des dates. On sait que la date de la première furtive édition du Télémaque, 1699, a été suivie par deux siècles d'immenses succès qui ont fait de Télémaque l'un des best-sellers de la littérature occidentale et une chute brusque. Il y a eu le commencement d'un oubli qu'on peut situer grosso modo dans la fracture de la Première Guerre mondiale, donc il y a un siècle. et qui coïncide avec le réveil des études critiques, philologiques, autour de ce poème ou roman pédagogique qu'on cessait de lire naïvement et de réécrire inlassablement. Peu après, il y a eu le pastiche de Louis Aragon qui sonnait le glas du livre en déclarant à la fois la mort de Mentor et celle de son pupille. « J'ai vécu 200 ans », se plaignait Mentor dans cette parodie dadaïste ou surréaliste, tout en faisant preuve d'une robuste jeunesse, par exemple dans ses amours inattendus avec la nymphe Calypso. Encore un siècle, et nous pouvons tracer de nouveaux bilans. D'un côté, il faudrait rendre honneur à la grande vague des études fénéloniennes qui ont traversé le XXe siècle et qui jouissent d'une excellente santé, allant juger par le chantier érudit et passionné qu'est cette année du tricentenaire. De l'autre, force est de constater la fascination et la portée historique du mythe qui parcourt le Télémaque, narration symbolique de la quête du père, qui semble être entre rejet et nostalgie, entre contestation et redécouverte, un thème majeur de notre époque. Je me souviens, avec un certain sourire, de l'intervention de notre premier ministre Matteo Renzi face au Parlement européen, parce qu'il a dit que nous sommes une génération à la recherche des pères, une génération de Télémaque. Je voudrais expliquer rapidement mon titre, en clair-obscur et un peu aussi à contre-courant des tendances de la critique récente sur Fénelon. Pourquoi Mentor ? Pourquoi son sourire ? Les études insistent depuis des décennies sur deux traits d'une icône fénélonienne tout autre que souriante. D'un côté, une certaine mélancolie de Fénelon, qui émane des œuvres de fiction et comme de ses écrits personnels, le vertige de la défaillance des apparences, de la nature décevante, déceptive des choses, de la distance qui permet et qui interdit à la fois l'effusion des affects. L'on répète depuis un siècle, avec une extrême finesse d'analyse, que ce maître de vie spirituelle était un homme sec, que pour ces chercheurs d'absolu, Dieu n'était pas sensible au cœur. Philippe Sellier, dans ses essais sur l'imaginaire classique, nous a dit la part d'ombre qui se cache sous la rêverie édénique du Télémaque. Nous sommes à même de reconnaître la vanité latente sous son esthétique de la plénitude. À partir des lectures de Jacques Lebrun, nous savons d'autre part combien de violence, quelle secrète cruauté s'accompagne à certains fantasmes de l'œuvre fénélonienne. Fantasmes d'enfants tués, de mères et de pères, d'autant plus monstrueux que la violence est sans explication, comme c'est le cas d'Idoménée qui tue son fils, mais un peu aussi d'Ulysse lui-même qui serait prêt à le laisser mourir. Violence de tyrans qui oppriment des innocents, violence de combattants qui vomissent un sang noir comme la haine qui les habite, fantasme d'un dieu qui exerce sur les âmes une chirurgie salutaire mais inexorable et capable de faire, je cite les mots de Fénelon, « violemment souffrir ». Décidément, le doux Fénelon, le cygne de Cambrai, ne nous offre pas une vision édulcorée du monde ni de la vie spirituelle. Mais je gage ici, sous cet aspect un peu négligé peut-être, que je voudrais souligner pour enrichir la palette des ambivalences déjà bien remarquées par le duc de Saint-Simon dans son portrait de l'archevêque, je voudrais gager, insister sur son sourire. Et ce sera par le biais d'un topos du Télémaque, le sourire de Mentor. Ma gageure devient de plus en plus difficile. Qui pourrait aujourd'hui s'intéresser à Mentor, le personnage le plus rébarbatif d'un livre qu'on a pu définir un voyage au bout de la nuit. Mais je renverse la question. Dans la floraison d'études qui ont envisagé sous tous les angles possibles l'œuvre de Fénelon, a-t-on rendu complètement justice à la figure de Mentor ? Ce personnage qui crève les yeux par son centralité, par sa centralité, semble être l'objet d'une distraction, voire d'un désintérêt qui pourrait venir de loin, puisque les nombreuses réécritures de Télémaque au XVIIIe siècle manifestent déjà une gêne et comme une impossibilité de prendre en compte la spécificité du personnage de Mentor. Il est très curieux de voir ce qui arrive à Mentor dans les réécritures, dans les livrets d'opéra du XVIIIe siècle. En effet, comme l'avait déjà affirmé Jeanne-Lydie Gorée il y a 50 ans, Mentor est le grand responsable de l'échec moderne de Télémaque. Trop lisible et partant illisible, frappé du maléfice de ce leurre de la lisibilité dont on a parlé très bien, Mentor reste enveloppé dans son propre discours qui finit par coïncider avec la raison et la morale. Et si cette évidence devait se dissoudre, si Mentor était l'imaginaire de Fénelon à l'œuvre dans ses instances les plus profondes, un bel article récent de Jean-Philippe Gros-Perrin s'exprime ainsi. Le mentor de Fénelon est-il un maître à penser, plutôt un maître à déchiffrer, c'est-à-dire au fond un maître à rêver? Alors je vais articuler mon propos dans un premier point qui concerne le sourire dans son rapport avec le secret de Mentor. Après, je vais toucher aux deux icônes de Socrates Ridens et de la Sapientia Ludens et finalement conclure sur l'essence du sourire entre la ruse et la grâce. Mentor est une abstraction, bien sûr, comme tous les personnages du Télémaque. Un faisceau de traits contradictoires, vieillesse et vigueur, qui reverdit dans les luttes les épreuves violentes, aspect humble et sans beauté, l'aspect d'un homme obscur, et une noblesse qui étonne, paternité, féminité, celle-ci affleure dans la constance de la tendresse, avant d'éblouir dans la révélation de la déesse Minerve qui se fait sur le mode du fondu, de la dissolvenza, en faisant coexister les traits des deux visages. Je cite, les rides de son front s'effacent, sa barbe grise et négligée disparaît. Télémaque reconnaît un visage de femme avec un teint plus unique, une fleur tendre et nouvellement éclose au soleil. D'autres contradictions concernent la parole de Mentor, dans le contraste entre un certain idéal d'éloquence et l'impossibilité de le représenter. Fénelon nous convainc de l'efficacité de l'éloquence courte et nerveuse, sans redite. Et Mentor est censé offrir le modèle de ce genre d'éloquence. Tout ce qu'il disait était court, précis et nerveux. Or, il se caractérise en fait par la lenteur et la redondance de son élocution. Télémaque est une illustration du principe de l'éducation par le plaisir. Le traité de l'éducation des filles souligne l'importance des narrations dans toute œuvre pédagogique. Mais les aventures de Télémaque fourmillent d'histoires que Mentor ne raconte pas, dont Mentor n'est pas le narrateur. Il est un raisonneur. Il préfère les maximes et leur explication aux exemples. s'il raconte, s'il chante ce qui arrive à un certain moment, le texte, curieusement, devient muet. Sur d'autres plans, Mentor est un personnage au statut étrange. Il émane d'une illusion de réalité, d'une nature tout à fait insolite, qui tient, me semble-t-il, à la modulation d'un effet de réception, qui finit par nous impliquer, mais qui s'origine à l'intérieur du texte. Qui est Mentor ? Télémaque n'a aucun doute sur l'identité de son vrai père. L'être de chair qui l'embrasse et arrose de larmes. L'importance du corps de Mentor a été plus d'une fois soulignée dans les lectures. Le lecteur, quant à lui, est introduit de plein pied dans le merveilleux païen et dans les subtilités de la signification littéraire, puisqu'il sait d'emblée que Mentor est la figure humaine de Minerve. Certains diront l'avatar, certains le masque. Mais pour d'autres personnages du récit fénelonien, Mentor est une énigme. Il n'est ni tout à fait chair, ni tout à fait signe. Il perturbe, il inquiète, il fascine, il enchante. Il résiste aux tentatives de connaissance et au désir d'appropriation de la part de Calypso comme d'Idoménée. C'est dans cette aura d'énigmes que Mentor provoque le lecteur. C'est son secret qui le fait vivre. Ce sont des indices d'étrangeté qui garantissent la subtile tenue littéraire du personnage. Or, l'indice suprême est son sourire. Ce sourire dont on parle toujours et qu'on n'approfondit jamais. Ce sourire itératif, transcendant, étrange. Le mentor de Fénelon n'est pas impassible, comme l'homme parfait que Fénelon appelle le gnostique. Il n'ignore pas les émotions, il avoue avoir souffert et dévoré sa peine face au péril de Télémaque. Il se montre parfois triste et abattu. Son visage peut apparaître pâle, triste, austère. Il laisse présager, voire il menace face à la perte possible de Télémaque sa propre mort, ce qui est curieux parce qu'une déesse ne peut pas mourir. Il peut exprimer de l'indignation, du mépris ou de la compassion. Ses yeux se remplissent de larmes ou brillent d'audace lorsque son attitude tranquille se transforme en une fureur guerrière. Ce sont ses yeux creux et austères qui se dissolvent comme un voile à l'apparition de ceux de Minerve, bleus et d'une douceur céleste, comme si la gravité et la grâce que l'esthétique de Fénelon associe si intimement devaient, le temps d'une métamorphose, se fondre l'une dans l'autre. Mais malgré la mobilité du visage de Mentor, nous ne le voyons jamais ni pleurer, effectivement, comme Héraclite, ni rire, comme Démocrite, c'est-à-dire comme les deux faces complémentaires de l'attitude philosophique classique à l'égard du monde. Par contre, le texte de Télémaque insiste 7 fois, si je viens compter, sur son sourire, réponse inattendue à des situations qui ne le justifient presque jamais. Loin d'être le figement d'un masque, le sourire est alors l'indice d'un savoir caché et le début du dévoilement. Il faut bien commencer à nous interroger sur l'essence du sourire, en la distinguant de l'essence du rire. Il est le pli qui fait vivre le visage de Mentor, non point de la vie des émotions, qui ne lui sont pas inconnues, mais d'une profondeur seconde, sémiotique et symbolique, au seuil du charme poétique et à la limite de l'abstraction. Alors, je voudrais parcourir rapidement les 7 occurrences du sourire de Mentor. Il sourit face au danger. Dans des circonstances qui font désespérer Télémaque, il est non seulement ferme et intrépide, mais encore plus gai qu'à l'ordinaire. Nous sommes au premier livre et déjà s'annonce un parallélisme suggestif. Télémaque répondit en soupirant, Mentor en souriant. répondit. Soupir et sourire. Ces deux mots si semblables commencent à tisser dans le roman leur figure de symétrie. Au cinquième livre, une nouvelle tempête favorise une reprise quasi textuelle d'une phrase déjà citée. Mentor se montrant non seulement ferme et courageux, mais doux et tranquille. Cependant, bien qu'on puisse sourire aux éléments déchaînés, le sourire n'appartient véritablement qu'à l'ordre des relations personnelles. Au septième livre, c'est la timidité de Télémaque à l'égard des plaisirs qui fait sourire son précepteur. Au huitième, l'erreur d'Acamas, qui a conduit le navire vers une terre inconnue, suscite à la fois la déploration de Télémaque et le sourire de Mentor. Au onzième, le sourire accompagne une grave réprimande que Mentor adresse à Idoménée. Tandis qu'après le retour de Télémaque de la guerre, la déception de celui-ci face au changement de la ville de Salente, qui semble plus triste, appelle encore une fois la formule. Mentor lui répondit en souriant. Comme pour faire pressentir le dévoilement de la déesse, le sourire rayonne de plus en plus dans les deux derniers livres, qu'il s'agisse de réagir à la honte de Télémaque, à la compassion que le jeune homme éprouve pour l'inconnu Cléomène et au désespoir qu'il manifeste lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'a pas reconnu en lui son père. Du point de vue de la diégèse des choses racontées, le sourire s'associe à des situations d'épreuve et d'aveuglement. Du point de vue de l'élocutio, le sourire de Mentor s'inscrit dans des répétitions, des parallélismes ou des récits formulaires. Il appartient au déjà-dit d'un texte qui traite ses clichés comme d'autres traitent des rêves. Attendu dans des situations inattendues, il ne fait qu'accentuer, par cette familiarité incantatoire, sa dimension d'étrangeté. Mais peut-on vraiment parler d'étrangeté ? Et le sourire de la sagesse n'avait-il pas, dans la mémoire du siècle classique et chrétien, dont Fénelon accompagne le crépuscule, des repères bien connus ? Du côté de l'antiquité païenne et philosophique, le sourire de Socrate, Socrates ridens. Du côté de celle biblique, les jeux de la sagesse, Sapientia ludens. Il est à peine nécessaire de souligner que, encore une fois, une figure d'homme à la barbe grise et une personnification féminine intemporelle concourent à l'énigme sur laquelle nous nous penchons ici. Que Socrate soit dans la fiction et dans la méditation de Fénelon l'anticipation du personnage de Mentor, nous le savons par ses dialogues des morts, que les contemporains de Fénelon n'ont pas lu jusqu'en 1712, mais qui ont précédé l'écriture du Télémaque. Le dialogue des morts, âcre jugement dernier, qui fixe les retrouvailles et les disputes des ombres au moment où les trois juges des enfers doivent leur assigner une place dans l'au-delà, est sans doute le bilan le plus mélancolique que l'auteur nous ait présenté des vertus des païens et de la valeur humaine, chez les anciens comme chez les modernes. Dans la forme dialogique et dans la relativité des points de vue, qui risque d'égaliser les torts et les raisons, il n'y a qu'un personnage qui s'élève au-dessus des autres et passe non seulement le seuil des Champs-Élysées, mais celui d'une relation figurale entre les deux antiquités, c'est Socrate. Un pauvre homme laid, Camus, chauve. Il triomphe civilement de Confucius, il se sépare d'Alcibiade avec des reproches définitifs après lui avoir rappelé qu'il l'avait aimé pour la vertu. Il reçoit de la part du misanthrope Timon un éloge surprenant qui a quelque chose de prophétique. Je le cite, Alcibiade, « Eh, ne savez-vous pas qu'il est un homme ?» Timon, « Non, je n'en suis pas bien assuré. J'en doute quelquefois, car il ne ressemble guère aux autres. S'il y avait au monde 10 hommes comme lui, en vérité, je crois qu'il me réconcilierait avec l'humanité. » Là, c'est une allusion biblique, clairement. Ô mon cher Socrate, quand je vois les hommes et que je jette ensuite les yeux sur vous, je suis tenté de croire que vous êtes Minerve, qui est venue sous une figure d'homme instruire sa ville. Socrate intervient dans les disputes des ombres avec des mots qui annoncent clairement l'idéal de l'amour désintéressé à l'égard d'une humanité infirme et souffrante. Le monde est un grand hôpital de tout le genre humain qui doit exciter votre compassion. Ainsi parle Socrate au misanthrope Timon. Guérissez tous les malades que vous pourrez guérir et plaignez tous ceux qui se trouveront incurables. Il rejoint ainsi la doctrine de l'opuscule fénélonien du pur amour. Les philosophes païens voient l'humanité dans les ténèbres et Socrate en particulier ont su que l'amour désintéressé est ce qu'il y a de plus divin en l'homme et l'objet d'une aspiration humaine universelle. Le Socrate de Fénelon ébauche par instant le sourire moqueur et maïotique que lui attribue le dialogue de Platon. Mais bientôt le même Alcibiade remarque à quel point le ton de son maître a changé. Il me semble que vous étiez de meilleure humeur dans le monde. Vos ironies piquantes avaient quelque chose de plus enjoué. On dirait que la raillerie fine et amère se déplace du personnage de Socrate à la tonalité socratique de l'ensemble des dialogues. Enjoué sans gaieté. Instructif sans illusion. C'est au genre des dialogues plus qu'au personnage de Socrate que semble confier une recherche de la vérité dans le style du dialogue platonicien. D'autre part, dans les entretiens des ombres, on ne saisit que quelques ombres, quelques intermittences de la vérité. En définitive, si Socrate aux enfers n'endosse pas encore l'énigmatique sourire de Mentor, d'autre part, il adopte avec modération cette pédagogie de l'ironie qui, comme une vertu païenne, crépusculaire et relative, attend de la douceur de la sagesse la possibilité d'un dépassement. Fénelon réinterprète ainsi la tradition si vive du XVIIe siècle du Socrate rieur, capable de rapprocher la philosophie du public des honnêtes gens, opérant la fusion du savoir et de la gaieté. Un article mémorable d'Emmanuel Bury a exploré les différentes facettes de cette tradition, je le cite, « d'Erasme à Montaigne, de Charon à la Bruyère, Socrate a pu incarner le détenteur d'une vérité à hauteur d'homme et pour l'homme, légitimant ainsi une philosophie toute laïque qui pouvait faire l'économie de la révélation chrétienne, non pour la négliger, mais pour gérer la sphère propre de l'homme dans sa vie terrestre. C'est bien la seule sphère, remarquons-le, dont s'occupent les ombres dans l'au-delà de Fénelon. Il n'est pas facile de réfléchir sur l'essence du sourire. Le sourire de Socrate revêt pour cette tradition humaniste et sceptique une vaste gamme de significations. Il est le signe de la maîtrise du sage, capable de se modérer en toute occasion. Il est la marque de la sociabilité du philosophe, ennemi de la mélancolie et de la misanthropie. En glissant vers le rire, il permet le dévoilement du ridicule de l'erreur. On se souvient de Pascal et de ça. 11e provincial. Il met à nu les travers des hommes. La Bruyère s'inspire de Socrate pour identifier la démarche du philosophe et donc celle du moraliste, peintre de portraits vrais qui paraissent monstrueux. Après tout, les codes de l'honnêteté mondaine, si attentifs à fixer les bornes de la bonne raillerie, encouragés à rire des prétentions vaines et de l'inconvenance des comportements. D'une exception à l'autre, le sourire du sage change donc de couleur, de la douce modération au sel de la moquerie, du piquant de la satire aux apparences de la folie. La journée du XVIIe siècle semble avoir été trop longue pour l'histoire d'un sourire. L'œuvre de Fénelon, avec l'invention d'un Socrate mythique et chrétien qu'il appelle Mentor, imprimera un tournant à cette histoire qui, j'ose le rappeler, nous intéresse encore aujourd'hui. Sapientia Ludens. Socrate et Mentor ne se rencontrent jamais dans l'œuvre de Fénelon, si ce n'est par leur dépassement dans la direction du mythe. La continuité entre le sage des dialogues et celui du Télémaque passe par la référence à Minerve et par cette notion de figure que Fénelon applique aux deux sages d'une manière assez nuancée. Et c'est aussi à partir d'un divers traitement de l'idée de figure que Socrate et Mentor se séparent définitivement. Mentor, Minerve est pris ou prise dans le dynamisme d'une plus complexe figuralité qui laisse entrevoir derrière la déesse la personnification biblique de la sagesse et en profondeur le verbe de l'évangile de Jean. Figure a alors le sens fort que lui attribue la doctrine médiévale des quatre sens de l'écriture et que certains critiques n'hésitent pas à appliquer à l'usage fénelonien du mythe antique. Je voudrais m'interroger ici sur une piste peu explorée, c'est-à-dire sur la possible influence d'une spiritualité et d'une mystique de la sagesse dont la tradition remonte au Moyen-Âge et traverse le XVIIe siècle pour aboutir à un livre à peine successif au Télémaque, L'amour de la sagesse éternelle de Grignon de Montfort. La sagesse y est représentée sous des traits féminins ou parfois nettement androgynes. Ô que Jésus, la sagesse incarnée, est belle, douce et charitable, s'exclame Grignon de Montfort, avec un fort accent antiphrastique sur l'oxymore sagesse-folie et néanmoins avec un éloge de la douceur qui se manifeste dans le sourire. Elle appelle les hommes pour leur apprendre les moyens d'être heureux, elle les cherche, elle leur sourit, écrit encore Montfort. Tandis qu'un ouvrage plus ancien et fondateur, l'Horologium Sapientiae de Henri Suzeau, attribue un sourire agréable à la mystérieuse princesse, tantôt majestueuse, tantôt condescendante, qui scelle avec l'auteur mystique un pacte d'amour inviolable. Je cite le texte de Suzeau à travers la plume de Montfort. Il est rapporté dans la vie du bienheureux Henri de Suzeau que la sagesse éternelle lui apparut un jour en cette manière. Elle prit une forme corporelle, entourée d'une claire et transparente nuée, assise sur un tronc d'ivoire et jetant un éclat pareil aux rayons du plein midi. Sa couronne était l'éternité, sa robe sa félicité, sa parole suavité. Henri la vit en cet appareil et ce qui l'étonna davantage, c'est que tantôt elle paraissait une jeune fille qui était le miracle du ciel et de la terre, en beauté, et tantôt un jeune homme qui semblait avoir épousé toutes les beautés créées. Fénelon a-t-il connu l'ouvrage de Suzeau? Oui, probablement. Quoi qu'il en soit, il ne dialogue dans le Télémaque qu'avec des sources plus éloignées. Les poètes, qui furent les théologiens des païens, l'écriture sainte, qui adopte dans les livres sapientiaux le rythme de la poésie. Philippe Sellier, dans une étude classique et magistrale, a analysé l'extraordinaire processus de condensation auquel parvient dans l'utilisation des sources classiques et bibliques la marqueterie intertextuelle du Télémaque. Deux épisodes parallèles transfigurent le personnage de Mentor dans des scènes d'épiphanie. Au livre 4, la conversation d'Azaël et Mentor, couronnée par l'apparition d'Amphitrite. Au livre 7, la scène du chant de Mentor sur le navire d'Adoham, prélude à l'évocation d'une contrée fabuleuse, la Bétique, le pays de l'âge d'or. Je cite Philippe Sellier, la parenté des deux épisodes saute aux yeux. Il s'agit de deux épiphanies de la sagesse, deux épiphanies sur la mer. La divinité de Mentor y resplendit au point de bouleverser ceux qui l'écoutent. Le règne du jeu s'affirme à diverses reprises. Donnons la parole à Télémaque qui raconte son expérience d'écoute des visions. Mon cœur en était échauffé et la vérité me semblait reluire dans toutes ses paroles. Ils continuèrent à parler de l'origine des dieux, des héros, des poètes, de l'âge d'or, du déluge, des premières histoires du genre humain. Donc, on dirait en christianisme de la création. Suit la scène tant de fois commentée du passage du chat d'Amphitrite, cristallisation d'une beauté qui, comme la rose du poète allemand Silésius, est sans pourquoi, c'est-à-dire sans aucun commentaire qui pourrait la réduire à une peinture morale. Dépourvue de signification morale, la scène d'Amphitrite avec son nourrisson, le petit dieu Palémon, pourrait déboucher sur une signification mystique qui conserve son secret malgré tant d'interprétations. Et je souligne encore une fois la centralité du couple mère-enfant, ce couple qui habite le texte fénelonien et qui se dévoile au dernier livre lorsque Minerve dissout les apparences de Mentor et la sagesse éclairante et nourricière se manifeste dans sa rayonnante féminité. Cette scène diurne est relayée au livre 7 par l'admirable Nocturne où le chant de Mentor suscite l'étonnement universel. Ainsi qu'au livre 4, le sublime implique une ellipse de la parole. Mentor raconte. Et le dispositif discursif et dialogique du texte s'arrête, comme la nature, comme les êtres humains devenus silencieux. Philippe Sellier a mentionné, à propos de ces scènes, le règne du jeu. Comment le règne de la profonde sagesse serait-il placé sous le signe du jeu? Mentor n'hésite pas à l'affirmer dans les mots qu'il adresse en souriant à Télémaque. Réjouissez-vous, Télémaque, réjouissez-vous. La sagesse n'a rien d'austère ni d'affecté. Elle sait mêler les jeux et les ris avec les occupations graves et sérieuses. On pourrait hypothéser que, dans son absence d'affectation, dans l'esprit de joie qui autorise et rachète le plaisir, la sagesse louée par Mentor, non moins que Socrate rieur, non moins que la princesse de Suso, semble faire sien les traits sociables d'une idéale honnêteté. Mais plus profondément, Mentor, qui prend la lyre, se manifeste comme figure de la Sophia biblique, cette sapientia ludens qu'un passage du livre des Proverbes montre à l'œuvre dans la création. Ce sont des versets très célèbres, je les relis. Dieu m'a créé au début de ses desseins, quand il traça les fondements de la terre. Je fus maître d'œuvre à ses côtés, objet de ses délices chaque jour, jouant en sa présence, en tout temps, jouant dans son univers terrestre, et je trouve mes délices parmi les hommes. La sagesse, cette fille aînée, apparaît en même temps comme l'enfant très jeune qui s'amuse à la présence de Dieu. À cause d'elle, la grâce ludique de l'enfance, si chère à Fénelon, se diffuse sur l'œuvre qui sépare la lumière des ténèbres, la terre des eaux, l'ordre du chaos. Pour mieux comprendre cette personnification féminine, on peut passer par une icône de plus célèbre, la femme brillante de jeunesse et de beauté, qui dans la voûte de la chapelle Sixtine s'enveloppe dans le manteau du Père éternel et que celui-ci entoure de son bras gauche. Tandis que de l'autre bras, il tend la vie, il offre la vie au corps d'un Adam magnifique et nonchalant. Remarquons que dans la fresque de Michel-Ange, la main gauche du Père finit par rejoindre la gorge d'un enfant, un puto, lui aussi enveloppé dans le manteau, comme pour traduire en image, Carlo Ossola l'a suggéré dans un très bel article, le Sermone ditans guttura du Veni Creator. Si le putto est peut-être l'âme à peine créée que le mouvement de Dieu va infuser dans le corps d'Adam, il n'est pas indifférent pour nous de remarquer la proximité de la jeune femme et de l'enfant et de rêver sur ce couple que l'iconographie de Michel-Ange d'un côté, l'imaginaire fénelonien de l'autre place aux origines de la création et au centre du mystère de la sagesse. Ce n'est pas tout. Avec la métaphore de l'enfance, la sapientia ludens a introduit celle d'un art libéral, l'architecture, au sein de la thématique de la création. Il serait peut-être utile de remarquer que dans les descriptions fénéloniennes, le paysage naturel n'est défini rien que lorsque l'œuvre civilisatrice assure la douceur de la pastorale, avec de la musique, de la danse, du travail et du repos. Faut-il vraiment distinguer nature et art, création et civilisation? La démonstration de l'existence de Dieu n'avait-elle pas décrit l'œuvre de la création un peu comme un travail civilisateur, où la main industrieuse de Dieu utilise le compas, dispose le monde tel une œuvre d'art? C'est parce que l'art de la nature, c'est un titre d'une partie du traité de Fénelon, conserve l'empreinte de l'industrie et du jeu d'un artisan inconnu, que la nature tout entière est le miroir de Dieu et la preuve, entre guillemets, de son existence. L'argumentation apologétique rejoint le dispositif essentiel de l'imaginaire, de la vision du monde de Fénelon. La nature est art, l'art humain se doit d'être naturel. Les choses réelles sont elles aussi figures, ce qui implique leur caractère transitoire, un deuil au plus profond de la beauté et leur richesse de signification, ce sourire de l'ailleurs qui est leur dernier, leur ultime ornement. Les deux scènes d'épiphanie de la sagesse fonctionnent donc comme de vastes figuratifs dont un réseau intertextuel à peine caché constitue le support et la condition de possibilité. Nous en sommes amenés à reconsidérer le sourire de Mentor au centre de la scène du livre 7. C'est peut-être la polysémie du mot « figure » qui offre une clé de voûte à ma proposition de lecture. Qui peut sourire sinon une figure, un visage? Mais d'autre part, ce visage étant figure de Minerve, est destiné à se dissoudre. Il renvoie de figure en figure, c'est-à-dire concrètement de texte en texte, au mystère sans figure que Fénelon approche par les symboles informels de la musique, de la lumière, et au silence de l'indicible que Fénelon inscrit dans l'impossibilité de redire sous une forme directe les discours et le chant de Mentor. Autant dire que dans l'univers de Fénelon, c'est la figure qui sourit, le réel en tant qu'image, le texte en tant que construction intertextuelle, enfin tout ce qui s'étale sur une surface, tout ce qui laisse transparaître une profondeur. Notre thème se propose alors comme une approche non seulement de Mentor, mais du Télémaque et de biais de l'œuvre de Fénelon, en tant qu'elle institue une relation entre imaginaire, culture et signification spirituelle. Maintenant, je vais très vite pour essayer de rester dans le temps. Le sourire circule dans le Télémaque. Comme la paternité de Mentor se diffracte sur une multitude de figures paternelles, ainsi la propriété du sourire est transitive. Il y a bien des visages souriants dans le récit, et s'ils ne sont pas toujours des visages de vieillards, comme il a été dit, ils sont souvent des visages de pères. Télémaque lui-même, facile aux larmes, se fait reconnaître par son sourire de puer senex comme le fils d'Ulysse. C'est Idoménée qui parle. Je reconnais ce sourire fin, cette action négligée, cette parole douce, simple, insinuante, etc. S'il y a des sourires dans le texte, il y a aussi des sourires du texte, des pointes d'humour. On sourit il y a des sourires de mentor, il y a aussi quelques sourires sur mentor. Par exemple, lorsque mentor continue à parler imperturbable au milieu de la tempête et Télémaque n'a pas la liberté de goûter ses sermons. Et le sourire de la sagesse ne se qualifie pas seulement par sa libre circulation et sa faculté de se répandre, mais aussi par son opposition à ce qu'on pourrait appeler le sourire des passions. Car Calypso sourit, elle aussi, avant de pleurer. Et Vénus répond par le sourire, au sourire de Jupiter. Et Astarbé, l'épouse traîtresse du tyran Pygmalion, sourit au milieu de... exerce sa séduction par le sourire. Et le méchant Protésila sourit au milieu de sa cour, laquelle se règle sur son sourire pour commencer à rire. Donc les noms et les verbes s'avèrent dangereusement doubles, puisque les jeux et les ris, les grâces riantes, les manières enjouées et l'action de se jouer recoupent également les domaines de la sérénité et du trouble. Mais les adjectifs sont éclairants, la joie enivrante, les jeux folâtres, le rire moqueur, balise le texte dans le livre de Chypre et de l'île de Gigi, c'est-à-dire à la rencontre de Télémaque avec le désir et la passion. La constellation du rire et du sourire, des jeux et des grâces, du plaisir et du désir, sans cesser de former une nébuleuse centrale dans notre texte, est traversée de fond en comble par la ligne d'un discernement qui ne peut que se transformer, selon une métaphore familière à Fénelon, maître spirituel, en retranchement. Mais il ne s'agit pas seulement d'opposer un bon à un mauvais sourire, une joie pure parce que modérée à une joie trouble et fiévreuse. Les circonstances du sourire de mentor invitent à dépasser cette dichotomie d'ordre moral. Et c'est ici que la question de l'essence du sourire redevient actuelle. Le sublime du sourire est dans sa nature paradoxale. Il réside dans une relation radicale aux difficultés de l'existence et aux sentiments négatifs qui en découlent. Les dieux ou les heureux habitants de la Bétique rient des hommes, parce qu'ils en sont infiniment éloignés. Le sourire suppose au contraire la distance et la proximité, le partage et le dépassement, la ruse et la tendresse. La ruse, certes, une pensée de derrière la tête habite Mentor lorsqu'il instruit Télémaque, en lui apprenant tout et en lui cachant l'essentiel, c'est-à-dire sa propre nature divine. Néanmoins, la tendresse, la divinité présente opprimerait Télémaque, comme il arrive au XVIIIe livre, tandis que la divinité voilée l'enveloppe de sa protection, tout en lui apprenant à marcher tout seul. Le sourire, cet antidote à l'erreur et à la souffrance, ne semble pas provenir du fond de l'être souffrant, ni pouvoir être acquis par une maïeutique. Il relève de l'ordre de la grâce, dans les deux sens du mot. Il est donné comme une promesse de sens, sinon comme un garant de bonheur. Ici, il faudrait considérer un peu Fénelon lui-même comme un vivant exemple de la ruse qui laisse percer à travers le pli des figures un savoir plus haut que celui qui ne peut être déclaré. Fénelon, maître spirituel, aurait de quoi nous instruire sur cette articulation entre le sourire et la mélancolie, voire la souffrance. Il faudrait parcourir la correspondance de Fénelon dans ces dernières années, un moment crépusculaire marqué par les ravages de la guerre, le deuil pour la mort du duc de Bourgogne, les tracas du diocèse, le déclin personnel. Ce moment semble avoir été, plus que d'autres époques de la vie de Fénelon, un moment de sérénité. L'oxymore entre la gaieté et le négatif de l'existence se recompose comme une réussite personnelle dans l'âge tardif de Fénelon. Alors, pour conclure, Fénelon lui-même et Socrate et Jésus-Christ ont pu souffrir dans leur chair et mourir. Mentor, bien qu'il partage la condition des hommes, ne mourra pas. Il mourra dans le pastiche d'Aragon. Et l'on sait que plus qu'un défaut de la fiction, on entrevoit là presque une limite de la théologie de Fénelon. Mais on entrevoit aussi, comme dans un miroir de condensation, un trait central de la représentation fénelonienne, son pouvoir déréalisant, sa maîtrise d'un espace second, abstrait, que déjà Françoise Berland avait évoqué comme propice aux rêveries élémentaires et au complexe d'images fondatrices. En fait, un idéal de totalité s'exprime dans cette figure éminemment synthétique. La rencontre de l'humain et du divin s'effectue en lui, dans cette forme indéterminée qui reste opportunément la tâche aveugle du texte. L'androgynie relève du régime synthétique de l'imaginaire, d'après Gilbert Durand, en tant que rêve d'harmonisation des contraires. Philippe Sellier l'avait bien identifié comme l'élément symbolique central du mentor fénelonien. C'est aussi ce qui rend Mentor un peu une figure sacerdotale. S'il est vrai que pour Fénelon, le vrai pasteur doit répondre à ses caractéristiques. Soyez père, ce n'est pas assez, soyez mère, enfantée. Fénelon s'adresse ainsi à l'électeur de Cologne. La coprésence de la vieillesse et de la jeunesse suppose également un mythe du temps cyclique. Mais d'autres contraires s'harmonisent chez Mentor, culturel, les deux antiquités, la sagesse philosophique, la sagesse biblique, et finalement existentielle, le mal et la douceur de vivre, l'épreuve et le sourire. Le trait le plus profond de l'imagination symbolique de Fénelon, le rêve de la totalité harmonieuse, s'inscrit dans cet être de papier destiné à un échec rhétorique et littéraire de par la richesse des enjeux de sa création. Je vous remercie beaucoup de votre attention.